Donc, il faut vraiment faire un calcul. Et si oui, on se dit, bah, très bien, on a peut-être trouvé une solution, pas la solution, mais se dire, alors maintenant, il faut peut-être apporter de la gourmandise, réintégrer les recettes, parce que les insectes, moi, très honnêtement, j'ai pas envie de manger un insecte qui me regarde avec les yeux morts, le truc grillé, en disant, mais ça, t'inquiète pas, c'est bon pour toi et ça a plein de protéines. Moi, j'en veux pas. On mange des codes, on mange une culture, on mange, il faut que ce soit appétissant, il faut que ça nous parle.
On pourrait tout à fait imaginer l'introduction de protéines animales de type insecte dans des préparations, mixées avec d'autres produits ou dans des sauces, de manière à pouvoir intégrer ces nouvelles formes de protéines dans l'alimentation du quotidien. Même chose pour les algues, par exemple, pour lesquelles on a une sous-exploitation de cette ressource qui est pourtant extrêmement durable.
Alors, la spiruline, ce sont des micro-algues. Donc, c'est-à-dire que ça appartient à la famille des algues, mais c'est à l'échelle, on va dire, c'est comme le plancton presque. Donc, c'est intéressant parce que ce sont des organismes qui contiennent plus de 60% de protéines. Donc, c'est des sources incroyablement fortes de protéines. Et comme ce sont des micro-organismes, ils se développent souvent très vite, un peu comme les microbes, si vous voulez. Donc, toutes les 20 minutes, la population double. Donc, il y a aujourd'hui des réacteurs qui sont cours de test, un peu comme des aquariums, et ça barbote là-dedans, et toutes les 20 minutes, ça double. Voilà. Donc on peut prélever, et ça se régénère extrêmement facilement.
Il n'y a pas que des fantasmes sur les algues, il y a des résultats maintenant. D'abord, on sait cultiver les algues, on connaît leurs valeurs nutritionnelles, on sait les transformer pour qu'elles aient du goût, on sait les transformer pour qu'elles deviennent des liants, on sait faire plein de choses aujourd'hui avec les algues. Et ça, ce sont à mon avis des produits qui vont largement entrer dans notre alimentation. Tout ça, ça diffuse et 2080, il est bien évident qu'on aura probablement la nouvelle recette du flan à la spiruline, qu'on n'appellera peut-être pas comme ça, mais et on aura énormément de produits comme ça qu'on aura su fabriquer, élever pour en faire des produits de consommation courante.
Quand même maintenant dans un laboratoire de reconstituer, de fabriquer des protéines, des tissages de protéines très complexes, c'est-à-dire faire des muscles. Et ça, ce sont des pistes qui peuvent être regardées parce qu'on peut tricoter alors, de la viande et on se dit « Oh là là, ça y est, on a l'impression que c'est de l'agroalimentaire, c'est tricatel avec les loups, la cuisse, qu'est-ce qu'on va manger demain, ça va être horrible. » Mais si on part tout de suite en disant « ça, ça marchera pas, ça, ça nous fait peur, ça, c'est pas éthique, ça, c'est pas machin », mais on fait plus rien. Et donc, la recherche, c'est quoi? C'est justement d'ouvrir toutes ces portes. Et dire, tu veux tester les insectes? Vas-y. La spiruline? Pourquoi pas? Allons-y. Steak in vitro? Mais allons-y. On avance. Et alors après, il y a la réalité qui nous ramènera à la réalité économique, écologique, éthique, etc. Et on verra bien.
Il y a surtout un phénomène qui est fort, et notamment chez les Occidentaux. C'est cette capacité à s'inquiéter plutôt que de chercher. Et là, effectivement, quand on est très inquiet, alors c'était mieux dans le temps. Mais dans le temps, c'était pas bon, on mourrait plus tôt. Le lait qu'on tirait comme ça avec le tabouret dans la bouse de vache, ben, d'un niveau bactériaux, c'était pas terrible. Donc à force de projeter que la physico-chimie, la chimie, le mot chimie serait dangereux, que si on parle de cuisine moléculaire, alors on parlerait presque de nucléaire. Non, ce sont des mots, des fantasmes. Mais quand on projette comme ça, aujourd'hui, ce que je constate du monde occidental, c'est qu'il s'inquiète et quand il s'inquiète, il se replie.
C'est une erreur de croire que les nouveaux aliments ne seront pas savoureux. Ils ne se vendront pas s'ils ne sont pas bons. Donc ils doivent être bons et ils le seront. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le soient pas.
La question alimentaire est d'abord une contrainte dans notre option la plus sombre. Et Thomas envie cette femme qui semble n'avoir aucune lentille pour lui rappeler ce qu'elle doit manger. Aucune assurance qui lui tape sur les doigts. Et récupère un colis avant de disparaître dans un immeuble. Thomas cherche à comprendre où la jeune femme a bien pu s'évaporer. Comment la suivre. Derrière ces murs, un restaurant pour initiés. Ici, on sert une rareté en 2080. De la vraie viande, qui vient d'un vrai animal, sur pattes, élevé dans un champ. Dans ce futur-là, seule une petite élite perpétue ce plaisir du début du siècle. moindre plat lui coûterait un mois de salaire. La jeune inconnue paraît toujours aussi tendue. Thomas arrive enfin. Le jeune homme est déconcerté. C'est la première fois qu'il va goûter de la vraie viande. Il veut savourer ce moment. Paz est vite interrompu. Sa voisine bombarde les clients de faux sang. La jeune femme est une militante de la cause animale. Elle veut condamner ces derniers restaurants cruels et arriérés.
On peut imaginer que dans le futur, la viande animale soit devenue un réel luxe, quelque chose d'exceptionnel que l'on dégusterait que pour les grandes occasions, à Noël ou pour des célébrations. Aujourd'hui, les spécialistes estiment même que pour infléchir le réchauffement climatique, il faudrait réduire l'empreinte carbone de la viande, surtout le bœuf et le mouton, jusqu'à n'en manger qu'une fois tous les 3 ans. Peut-être que dans le futur, à force de n'en manger que tous les 3 ans, nous allons finir par en perdre le goût ou l'envie. Peut-être même que notre estomac n'arrivera plus à digérer la viande animale. Peut-être que nous aurons appris à remplacer totalement la viande par d'autres gourmandises que nous aimons, à base de plantes. Mais j'en sais rien. La trajectoire que je vois, c'est plutôt une réduction progressive de notre consommation d'ici 2080.
Peut-être que la solution pour le futur, ce serait que la viande, les vrais morceaux de viande animale et tout ce que cela représente culturellement pour nous, deviennent un produit de fête pour des occasions exceptionnelles. Un produit vendu très cher pour que les éleveurs qui restent puissent continuer à en vivre. Et à l'inverse, les protéines cellulaires seraient-elles destinées à nos sandwichs, nos repas du quotidien ou des aliments renforcés en protéines? Et comme ça, l'agriculture traditionnelle cohabiterait encore avec les nouvelles technologies alimentaires.
Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est de tomber sur une alimentation en 2080 qui serait extrêmement sélective et qui finirait par nourrir qu'une élite, et une alimentation qui serait beaucoup moins sélective, où il n'y aurait plus cet esprit de la qualité. Et là, on verrait une population mal nourrie avec tous les impacts santé que ça peut avoir.
Une autre tendance, c'est la communautarisation de l'alimentation, avec des groupes de consommateurs qui ont des régimes alimentaires assez différenciés, les flexitariens, les véganes, ce qu'on appelle les viandards. Et donc, on a cet éclatement de la communauté des mangeurs qui cohabitent de manière plus ou moins pacifique ou, plus ou moins sous tension. Et on peut tout à fait imaginer que dans l'avenir, cette ségrégation alimentaire entre les communautés se perpétue, voire s'accentue.
Peut-être que dans le futur, manger des animaux sera totalement anachronique. Un peu comme on voit l'esclavage aujourd'hui. Les gens se diront, mais comment ont-ils pu enfermer ces animaux dans ces conditions alors qu'ils savaient que ça faisait tant de mal à la planète?
Je pense que l'idée de manger des animaux sera vue comme quelque chose d'épouvantable. Les gens se diront, mais comment ils ont pu faire ça dans le passé? Comme aujourd'hui, on regarde la traite des esclaves. Notre façon de vivre aujourd'hui sera vue comme moralement répugnante. Moi, je ne crois pas du tout que les gens continueront à manger des animaux morts, même pour des occasions particulières. Vraiment pas.
À le ventre et les poches vides, il est encore sous le choc de ce qu'il vient de vivre. On ne leur prendra pas à goûter à la vraie viande. Restaurant, il a fini par s'égarer dans un quartier ultra sécurisé. Arme verticale qui tourne nuit et jour. Pas un humain à l'horizon. Un robot sentinelle sécurise l'entrée de ces fermes hydroponiques. Sur 26 étages, poussent ici, sans la moindre motte de terre, des milliers de fruits et légumes. Un drone se charge de la récolte avant que celle-ci ne soit expédiée par camion vers les tables les plus riches.
Vous êtes devant une zone de sécurité de niveau 3. Pour votre sécurité, je vous demande de vous éloigner. Second avertissement. Éloignez-vous immédiatement.
Dans ce scénario pessimiste, cet Éden technologique ne nourrit pas tout le monde. Dessiné autrement. Si au contraire l'innovation technologique permettait à tous les frères, l'innovation technologique permettait à tous les habitants des mégalopoles de manger sain et naturel.
Donc on se dit alors 12 milliards sur Terre, ça veut dire encore plus de bâtiments, encore plus de personnes. Donc on voit que la surface de la Terre a atteint des limites, parce que voilà, elle est limitée justement. Mais si on veut continuer à grandir, il faut grandir dans l'espace. Donc il faut attaquer la hauteur. Et donc ça veut dire aussi que l'agriculture doit penser verticale. Donc si on veut attaquer un peu plus la verticalité, ben, il va falloir faire des étages. Mais des étages, on va pas mettre de la terre comme ça avec des jardinières. Et surtout, on est... Maintenant, dans les laboratoires, on sait ce dont a besoin une plante pour grandir au mieux. En termes de alors, potassium, sodium, nutriments, les nitrates qu'il faut, la lumière, etc. Donc, on peut très bien prendre la plante, l'isoler, arroser juste avec les nutriments qui vont bien, donc hors sol, en fait, et la plante va pile se nourrir de ce qu'il faut. Alors ça peut faire peur parce qu'on se dit « Ah là là, mais une plante, ça a besoin de terre, c'est un peu la grand-mère avec les bottes et on va dans le jardin, etc. » Mais finalement, on se dit « Mais on va même mieux nourrir la plante parce qu'on sait exactement ce dont elle a besoin. » Et puis il y a les capteurs qui vont dire « Tiens, elle manque de ça, elle manque de ça. » Et on peut faire ça comme ça sur plein d'étages et c'est ce qu'on appelle une ferme verticale parce qu'on va être capable de mettre des légumes, des plantes, des fruits et tout ce qu'on veut. Et il n'y a plus besoin de terre quelque part.
Les promoteurs de ces technologies soulignent les effets positifs de ces modèles, notamment en matière d'environnement, avec une réduction très forte des impacts sur l'eau, des impacts sur les écosystèmes. Et donc, on pourrait considérer que c'est la solution idéale pour nourrir la population sans détruire la planète.
Un lieu très aseptique avec des tubes partout et puis c'est très chirurgical ou avec des gouttes à gouttes parce que c'est la réalité d'ailleurs, on donne aux gouttes à gouttes des engrais. Mais en fait, on pourrait reproduire des terroirs aussi dans des fermes verticales. En tant que chimiste, on est capable d'aller décortiquer ce qu'il y a dans ce sol, ce fameux terroir, et dire ok, le terroir grand cru de je sais pas quoi, si on parle du vin, voilà ce qu'il y a dedans. Et donc la plante, elle va plutôt prendre ces éléments-là. Donc on pourrait presque faire... Je ne dis pas que je suis pour, hein, mais on pourrait presque se dire bah, « Ok, on va transférer ça dans un laboratoire, pourquoi pas dans une ferme même isolée, et on va nourrir la plante avec exactement les éléments nutritionnels de la plante de ce fameux terroir. »
Mais ça n'a aucun sens, enfin. Le prix du terrain dans les villes est 100 fois plus cher qu'en zone rurale. Donc si vous faites pousser des légumes dans une ferme urbaine, verticale, vous êtes directement en concurrence avec des fermiers qui font pousser des légumes en pleine terre ou dans des serres toutes simples, chez qui le soleil donne gratuitement la chaleur et la lumière nécessaires. Pendant que vous devez construire ces bâtiments archi-sophistiqués et donc hors de prix et fournir vous-même la chaleur et la lumière. Donc, si vous utilisez l'espace urbain pour des activités rurales, vous prenez le problème complètement à l'envers. Et vous allez forcément perdre. Et ce sera toujours le cas en 2080. C'est pas ça le futur.
Moi, je crois pas trop au futur des fermes hydroponiques parce que pour moi, elles sont très énergivores. Donc effectivement, ça va pousser très vite, parce qu'en général aussi, c'est chauffé. Hein, ça dépend, mais en général, c'est chauffé, avec beaucoup d'eau, donc effectivement, ça pousse. Mais le problème, c'est que c'est, encore une fois, recréer un système totalement énergivore, productiviste, qui fonctionne au sein des villes, mais qui, pour moi, n'est pas en cohérence avec l'agriculture qu'on devrait développer aujourd'hui, qui n'est pas assez ancrée dans le sol, avec justement de la vraie terre, avec des vrais nutriments. L'idée, c'est qu'on soit quand même dans une agriculture qui consomme le moins possible, qui consomme le moins d'eau possible. Je vois avec les producteurs avec lesquels je travaille aujourd'hui, et je pense que c'est la manière de faire de l'agriculture pour l'avenir.
Il y aura encore de vrais fermiers en 2080 qui cultiveront des graines, des fruits et des légumes et des noix. Mais ils feront ça complètement différemment de ce qu'on voit aujourd'hui, de manière ultra précise, plutôt que dépendre des fertilisants, de grandes quantités de fumier ou d'eau. Dans le futur, on aura une agriculture de précision, nourrie par une connaissance scientifique très détaillée des sols.
Ville de 2080, ce vaisseau de béton renferme toutes les graines et semences d'autrefois. Une machine à remonter le temps, devenue musée de l'alimentation. Chef cuisinier aime s'y plonger dans les assiettes du passé et revivre l'histoire de l'agriculture. Le voyage virtuel commence il y a 8000 ans. L'immersion est totale. Thomas peut même sentir tous les parfums du néolithique. Cette époque où le chasseur-cueilleur se sédentarise pour devenir paysan et produire sa propre alimentation. Sont revues toutes les étapes de nos évolutions agricoles. La charrue au Moyen Âge, la mécanisation à l'ère industrielle, l'agriculture intensive, jusqu'à ce moment fatidique où les sols ont fini par s'épuiser et le climat se dérégler. En 2040, l'humanité a vécu une crise alimentaire mondiale, connue sous le nom des Grandes Guerres de la Faim. Des millions de gens se sont retrouvés réduits à voler pour manger. Puis une nouvelle révolution alimentaire. Au bord du précipice, l'humanité a su réagir. L'ADN de milliers de graines, l'homme a été capable de recréer des variétés disparues, de les réintroduire sur Terre et de les adapter aux nouvelles conditions climatiques. Sur idéal, la famine n'existe plus et chacun peut se nourrir sainement.
Le changement le plus enthousiasmant, qui je pense sera presque universel d'ici 2080, c'est qu'on va passer des cultures céréalières annuelles aux cultures de céréales pluriannuelles, à plusieurs récoltes par an. Il y en a déjà en Chine, par exemple, dans le Yunnan. On commercialise un riz pluriannuel qui peut se récolter 6 fois dans l'année, au lieu d'une seule, et avec le même rendement par récolte. Dans le Kansas, le Lane Institute est en train de mettre au point des variétés pluriannuelles de blé, de tournesol, bientôt de haricots et de plein d'autres céréales. Leurs tournesols pluriannuels ont été cultivés à côté des tournesols classiques. Eh bien, les tournesols classiques sont morts, alors que les tournesols pluriannuels ont survécu. Notamment parce que leurs racines étaient beaucoup plus profondes, leurs tiges et leurs feuilles beaucoup plus résistantes. Donc à la fois pour résister au changement climatique et pour réduire l'impact carbone de l'agriculture, moi j'espère vraiment qu'en 2080, on sera passé à la culture de céréales pluriannuelles.
Quand on envisage des nouvelles technologies, des nouvelles innovations alimentaires, il faut toujours penser à leur contexte social, politique et économique. Et notamment, un des points essentiels, c'est à qui appartient cette nouvelle technologie. Le modèle qui prévaut actuellement dans le domaine alimentaire, dans la food tech, c'est surtout celui des entreprises privées. Donc ça veut dire que les bénéfices d'une innovation iront à l'entrepreneur ou à ses actionnaires. Et l'intérêt des actionnaires, généralement, c'est d'augmenter la valeur de l'action, donc de vendre partout dans le monde, souvent à un prix élevé. Résultat, beaucoup de consommateurs se retrouvent exclus.
Un des chemins qui pourrait être devant nous, ce serait celui qui verrait réduire la part des par les entreprises de l'agro-industrie. Mais qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce qu'elles attendent de faire du profit? Est-ce qu'elles attendent le bien-être de l'humanité et sauver les écosystèmes? C'est toute la question.
C'est une question absolument cruciale. On ne peut pas laisser uniquement les grandes entreprises s'emparer de ces nouvelles technologies alimentaires. Parce que si c'est le cas, ces innovations ne profiteront pas aux consommateurs. Elles ne seront pas démocratisées et accessibles comme on aimerait. Elles ne produiront pas forcément des aliments de bonne qualité non plus. On sait ce que font les grosses compagnies avec l'alimentation. Et elles n'aideront pas non plus à rendre la chaîne alimentaire mondiale plus résiliente. Parce que c'est toujours ce qui arrive quand l'innovation reste concentré aux mains de quelques grosses entreprises. Donc, moi je pense qu'en matière d'innovation alimentaire, les droits de propriété intellectuelle devraient être très faibles et les lois antitrust très strictes.
L'innovation alimentaire profitera-t-elle à tous? Au petit matin, notre graphiste arrive au bout de son aventure nocturne, face à une mer depuis longtemps dépourvue de poissons. Que l'on observe désormais derrière un mur anti-submersion. Thomas se demande bien comment l'homme pourrait retrouver le plaisir de manger sans tuer la planète à petit feu.